Vous êtes sur RTL.
Vous écoutez RTL et il est 10h. Allez, place à l'information sur RTL.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Et bonjour à tous ceux qui arrivent sur RTL en ce samedi 25 avril. C'est Agnès Bonfillon qui vous dit tout sur l'actualité. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
Et à la une de ce samedi, l'appel de 130 prêtres à Emmanuel Macron.
Ah oui, dans une tribune publiée dans le Figaro, ces hommes d'église demandent au président de la République de pouvoir, eux aussi, sortir du confinement à partir du 11 mai prochain, c'est-à-dire célébrer à nouveau des messes dans les églises, ce qui pour l'instant n'est pas prévu par l'exécutif. L'un des signataires, le père Grosjean, ressent une profonde injustice.
Ça a été une douche froide. Personne ne s'attendait à ce qu'il annonce que le culte pourrait reprendre simplement un mois plus tard. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'être absolument loyaux, obéissants, et ils l'ont été, et ensuite d'être injustes. Ce n'est pas un loisir pour les croyants. Je ne parle même pas de tous ceux qui ont dû reporter leur mariage, ce que vous imaginez, ou le baptême de leurs enfants, des premières communions du mois de mai, etc. Donc, je veux dire, les sacrifices, nous les avons faits comme tous les Français. Mais si aujourd'hui, la vie scolaire, la vie économique, les commerces, etc. peuvent reprendre, sauf les églises, mais alors c'est un sentiment d'injustice profond. Nous ne demandons pas plus, mais pas moins que les autres.
Le père Grosjean, joint par Patrice Thomas pour RTL.
Alors, est-ce que l'exécutif entendra cet appel ? En tout cas, le gouvernement travaille d'arrache-pied. Il doit faire ses premières propositions la semaine prochaine.
Oui, et d'ici là, encore beaucoup d'équations à résoudre, de nombreux professionnels à rassurer. À Matignon, ce week-end, l'ambiance va être studieuse, William Galibert.
Oui, parce qu'il y a énormément de choses à trancher sur le fond et énormément de choses à corriger sur la forme. Alors, ce week-end, ce sera une succession de réunions de travail, de consultations et de coups de fil, résume Matignon. Où faut-il distribuer les masques grand public ? Comment faire appliquer les règles sanitaires pour la reprise des transports ? Quelles règles fixer pour le retour à l'école ? Tout est encore sur la table. Ce sont des sujets ultra complexes. On a besoin de temps et on en manque cruellement, résume un conseiller du pouvoir. Édouard Philippe doit aussi remettre de l'ordre dans ses propres rangs. De sources concordantes, il a été ulcéré par les couacs de ces derniers jours. Son ministre de l'Éducation a fait des annonces seules sur la reprise des cours. Sa ministre des Sports a étalé ses états d'âme dans la presse quand ce n'est pas directement l'Élysée qui est venu brouiller les messages en annonçant de nouvelles pistes de travail. Question communication, ça n'a pas été nickel, euphémise un proche qui assure que le Premier ministre reste malgré tout solide dans la tempête et que tout sera prêt à temps.
William Galibert du service politique de RTL, parmi les tâches colossales qui attendent le gouvernement, l'aspect financier, éviter la banqueroute de certains secteurs comme celui de la restauration et l'hôtellerie. Les professionnels vont devoir encore attendre un mois pour savoir si oui ou non ils peuvent avoir une idée de la date à laquelle une réouverture est envisageable. Dans l'industrie, Bruno Le Maire a déjà fait des annonces hier. Le ministre de l'économie était l'invité du 20h de TF1. Il a prévu une aide financière extraordinaire pour Air France.
Les avions d'Air France sont cloués au sol. Et donc, il faut soutenir Air France. Nous allons apporter, à la demande du président de la République et du Premier ministre, un soutien historique à Air France. 7 milliards d'euros pour sauver notre compagnie nationale et sauver les 350 000 emplois directs et indirects qui vont avec. Ce sera 4 milliards d'euros de prêts garantis par l'État apportés par les banques et 3 milliards d'euros de prêts directs par l'État. Nous sommes derrière Air France, derrière les salariés d'Air France, pour garantir notre indépendance et sauver des emplois.
Un geste immédiatement salué par le patron d'Air France KLM, Benjamin Smith, dans une vidéo adressée aux salariés du groupe.
Ce financement nous donne la possibilité de nous reconstruire. Au nom du groupe Air France KLM, au nom de toutes ses équipes, je tiens à remercier l'État français de ce soutien inestimable et de sa confiance dans notre capacité collective à redresser nos compagnies dans les prochains mois. Ce soutien exceptionnel de l'État français n'est pas un chèque en blanc. Nous allons devoir nous montrer à la hauteur de cette confiance. Le soutien que nous apporte l'État français et les discussions très positives qui se poursuivent avec le gouvernement néerlandais vont nous permettre de surmonter cette crise avec ambition et détermination.
Benjamin Smith, le PDG d'Air France KLM, 7 milliards d'euros pour la compagnie aérienne donc et 5 pour Renault. Là, il s'agirait uniquement d'un prêt garanti par l'État.
Agnès, vous parliez d'Air France. Eh bien, la compagnie est mise en demeure par l'UFC Que Choisir.
Et elle est loin d'être la seule dans ce cas. L'association de consommateurs donne 15 jours, pas plus. 15 jours aux compagnies pour rembourser purement et simplement aux clients les billets annulés en raison de l'épidémie. C'est ce que prévoit normalement la réglementation européenne. Et le président de l'UFC Que Choisir, Alain Bazot, prévient, ceux qui ne proposent que des avoirs risquent très gros.
On voit que ce règlement est un véritable paillasson que tout le monde piétine. Donc les premières, c'est vraiment les compagnies, mais ensuite c'est le gouvernement. Dans la bouche du secrétaire d'État, M. Djebari, on l'entend dire que les consommateurs doivent prendre un avoir alors que ce n'est pas du tout une obligation pour eux. Un bout de papier qui n'a pas beaucoup de valeur, parce que si dans plusieurs mois la compagnie disparaît, évidemment que cet avoir, il va s'envoler en fumée. Le consommateur, lui, qui a ses difficultés, en attendant, il paye son loyer, il paye ses remboursements d'emprunt. Ça, c'est parfaitement insupportable. Autant vous avez 16 compagnies en France qui jouent le jeu, qui remboursent, et il y en a d'autres qui gagnent du temps. Donc, on veut taper du poing sur la table. On vous donne 15 jours pour vous mettre dans les clous. Si ça n'est pas le cas, l'étape suivante, c'est le procès. Les voyageurs qui ont vu leur vol annulé, ils sont des milliers, sans doute des dizaines de milliers, on a la possibilité de faire une action de groupe si les compagnies ne veulent pas entendre raison.
Alain Bazot, le président de l'UFC, Que Choisir, avec Marie Guerrier pour RTL.
Au total, Agnès, depuis le début de l'épidémie, 22 245 personnes ont été tuées par le virus chez nous en France.
Oui, en 24 heures, 389 morts supplémentaires. La seule lueur d'espoir, eh bien, c'est le nombre de patients en service de réanimation. Ils repassent enfin sous la barre des 5000. 5000, c'est le nombre de lits dont la France dispose en temps normal. Ce qui n'empêche pas la Direction Générale de la Santé de prévenir. Attention, la vigilance reste de mise. L'épidémie est loin d'être terminée. J'ai du mal à croire que je dois dire ça, mais s'il vous plaît, ne buvez pas de l'eau de Javel. Concerné, Joe Biden, candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle américaine. Concerné, car lors de sa conférence de presse hier, Donald Trump s'est demandé si s'injecter un désinfectant ne serait pas une solution pour combattre le virus. Cela a provoqué un tollé, obligeant le locataire de la Maison Blanche, quelques heures après, à préciser que ses propos étaient sarcastiques. On rappelle que les États-Unis viennent de franchir le seuil des 50 000 morts. L'Arabie Saoudite abolit les coups de fouet, la peine de flagellation pour, je cite, se conformer aux normes internationales des droits humains contre les châtiments corporels. Jusqu'ici, le royaume ultra-conservateur était très critiqué par les ONG pour cette sentence applicable en cas de meurtre, d'atteinte à l'ordre public ou même de relations extra-conjugales.
Agnès, on a parlé de l'industrie, du tourisme. Beaucoup de professions s'inquiètent pour l'après-confinement et les garagistes en font partie.
Mais oui, eux aussi demandent un coup de pouce de l'État. Le secteur est fortement impacté et les perspectives pas très réjouissantes pour les prochains mois. C'est quand même la cinquième branche économique de France, Christophe Bourreau.
Dans ce garage toulousain, ils ne sont plus que deux mécaniciens contre cinq avant le confinement. Grosse baisse d'activité, mais aussi grande amplitude horaire. En effet, les voitures des caissières, infirmières ou encore médecins doivent pouvoir être dépannées jusqu'à tard le soir, comme l'explique le patron Madani Benyoum.
Exceptionnellement, durant la période, au lieu de fermer à 19h, nous sommes ouverts jusqu'à 23h pour toute intervention d'urgence.
Alors si ce patron ne compte pas ses heures pour venir en aide, il commence à s'inquiéter du manque de pièces pour réparer. C'est d'ailleurs le cas un peu partout en France, constate Alexis Frère Jean, à la tête de Vroomly, le plus gros site de comparateurs de garages en France.
Clairement, le manque de pièces commence à se faire sentir. Là où d'habitude un garage est livré 4 fois par jour, il va être livré qu'une seule fois par jour.
Pour savoir si les pièces sont disponibles et le garage près de chez vous ouvert, Vroomly publie désormais une liste sur son site.
On a pris le parti de recenser tous les garages ouverts en France, gratuitement, sur le site. Ils sont ouverts et c'est vraiment plus pour pouvoir aider que pouvoir faire du chiffre d'affaires actuellement.
Aujourd'hui, environ un garage sur trois reste ouvert avec un chiffre d'affaires qui a dégringolé en moyenne de 80% en 10 jours.
Le reportage de Christophe Bourreau pour RTL.
Et puis si nous n'étions pas en pleine pandémie, ce serait considéré comme un sujet inévitable avant l'été.
L'année dernière en août, vous vous en souvenez peut-être, l'accident d'un Tracker, un avion qui lutte contre les incendies. Cet avion s'était écrasé pour cause de défaillances techniques. Depuis, les 7 appareils dont dispose la sécurité civile ont interdiction de voler. Le problème, c'est que l'État n'envisage aucune solution de remplacement, ce qui inquiète fortement les pilotes de la sécurité civile, mais aussi les pompiers des Bouches-du-Rhône, Hugo Hamelin.
Oui, parce que le Tracker, c'était la première lame contre les incendies. Plus maniable que les Canadair, il larguait son produit retardant sur les premières flammes détectées. Le problème, c'est qu'il n'était plus tout jeune.
La structure datait des années 50, hein, ces avions qui ont fait la guerre de Corée et qui ont été modifiés ensuite pour venir faire du feu de forêt en France.
Christophe Govillot est un pilote expérimenté de la sécurité civile.
Il est évident que l'absence des Trackers à partir de cette année va être très préjudiciable pour la lutte contre les feux de forêt. Les avions qui nous restent actuellement sur la base de Nîmes-Garon ne vont pas suffire à eux-mêmes à effectuer le travail que faisaient les Trackers en plus du travail pour lequel ils sont désignés. C'est-à-dire que les Canadair, c'est des avions qui frappent massivement sur des feux déjà installés. Leur mission, c'est pas faire du guet aérien.
Parmi les solutions à long terme, le colonel Allion des sapeurs-pompiers milite pour la création d'une flotte européenne.
L'intérêt de cette flotte européenne, ce serait non seulement de pouvoir être sur le sujet des feux de forêt, sur le sujet de toute crise sanitaire, mais aussi cette capacité à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'espace Schengen, de l'espace européen.
Mais le temps presse car le réchauffement climatique va provoquer des incendies de plus en plus importants et plus uniquement dans le sud de la France.
Le reportage d'Hugo Hamelin pour RTL. Le football, nos confrères du Parisien aujourd'hui en France nous apprennent que l'ex-entraîneur des Verts, Robert Herbin, mythique coach de la grande époque de Saint-Etienne, est hospitalisé dans un état grave à l'hôpital Nord de Saint-Etienne justement. Il ne souffre pas du Covid-19 mais de graves insuffisances cardiaques et pulmonaires. Robert Herbin est âgé de 81 ans.
Et évidemment, Christian Olivier nous donnera des nouvelles ce soir sur RTL dans On refait le match, le rendez-vous du samedi, c'est 18h30 jusqu'à 20h avec Christian et toute l'équipe du service des sports. Merci Agnès Bonfillon.
Avec plaisir.
L'actualité RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, bien sûr. La météo du samedi, Valérie Quintin, je suis très positif, donc on commence par le beau, c'est dans le nord et dans le midi.
Voilà, alors dans le nord Pas-de-Calais, dans le nord, le département du Nord, ainsi que sur la Normandie, c'est encore un petit peu nuageux à l'heure qu'il est, mais ça va se lever rapidement, même s'il reste quelques averses en Normandie. On va avoir beaucoup de soleil dès ce matin, c'est d'ailleurs déjà le cas, donc sur le bassin parisien, le Grand Est, toutes les régions méditerranéennes, y compris la Côte d'Azur où ça pourrait être un petit peu plus chargé cet après-midi, et à contrario, vers le sud-ouest et vers les régions centrales, là on a un ciel beaucoup plus chargé, encore quelques orages en cours en Touraine, dans le Berry, mais aussi dans le Massif central et en Bourgogne, des orages qui vont se réactiver principalement sur ces régions centrales cet après-midi et ce soir, et ça pourrait claquer assez fort sur l'Auvergne notamment. Les températures, elles sont toujours relativement douces, même très très douces. 26 degrés attendus à Cahors cet après-midi, 25 à Angoulême et à Valence, 24 à Bordeaux, comptez 23 à Bourg-en-Bresse, 22 degrés à Paris, à Metz, à Strasbourg, 21 pour Vannes, 19 degrés à Bastia et 18 à Lille.
Merci Valérie, tout est dit évidemment. 11h l'actualité avec Thomas Dulin tout à l'heure sur RTL. 12h30 ce sera le journal inattendu. Vincent Parisot s'intéressera aujourd'hui à notre cohabitation avec le coronavirus, comment on vit avec ce virus dans différents domaines. Il y aura tout plein de spécialistes de l'hygiène, du travail, des transports, des vacances aussi, un sociologue des vacances sera là. C'est 12h30, on va apprendre plein de choses jusqu'à 13h30, le journal inattendu avec Vincent Parisot. On vous abandonne quelques secondes et la musique arrive et reprend ses droits bien sûr avec Vincent Perrault.
Oh Vincent Perrault, Parisot, on s'y perd dans tous ces Vincent P, hein. c'est quand même ça. Terrifiant. Alors, je peux vous dire quand même Stéphane que en tant qu'envoyé spécial confiné dans les alentours de Cannes, je réponds à Valérie, c'est déjà très nuageux et très plombé dans le midi. Hein.
Ah, c'est ballot.
Ah oui, c'est très ballot. Bah, oui. Confiné, même pas bronzé. Confiné, pas l'eau, ça s'appelle.
Voilà.
Bon, bah, vous vous consolez avec la musique, c'est déjà bien.
Exactement.
Bon samedi, merci.